France Culture, les matins d'été, les unes de la presse.
Les titres de la presse, c'est avec Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Benoît.
Le burkini est à la une ce matin.
Oui, c'est aujourd'hui que le Conseil d'État doit examiner un arrêté du maire de Villeneuve-Loubet interdisant le burkini à la plage. Une trentaine d'autres villes ont également décidé d'interdire la tenue de bains islamiques au nom du respect du principe de laïcité et de sécurité des baignades. D'où ce titre donc à la une du Parisien. Jour J pour l'avenir du burkini. Et Donat Vidal-Verhoeven dans son édito de résumer la polémique à cette question. Le port du burkini est-il anodin? Lorsque certaines femmes se sont mises en monokini à la plage dans les années 70, c'était une manière, dit-il, de disposer de son corps face au carcan d'une société phallocrate. Ce n'était donc pas anodin, comme ne l'est pas sans doute le burkini. Mais alors, quelle est la liberté revendiquée dans ce cas? Interroge toujours l'éditorialiste. Celle de s'habiller comme on l'entend grâce à la démocratie en vivant humblement sa foi, ou bien celle de provoquer la république laïque en affichant son communautarisme de manière ostentatoire. Chacun tranchera, conclut Donat Vidal-Revel, non sans ajouter toutefois cette remarque. Est-il anodin que ce débat existe parce qu'un précepte religieux veut soustraire de tout espace public le corps de la femme, cette tentatrice considérée comme impure? Et d'en conclure, ne sommes-nous pas devenus fous? Toujours dans les colonnes du journal, le politologue Jérôme Fourquet estime pour sa part que le burkini est avant tout le prolongement des polémiques qui ont marqué la France depuis des mois, comme le menu halal dans les cantines. La crispation est désormais accentuée par le contexte terroriste et l'imminence des élections, ou dit autrement, on est aujourd'hui dans la surenchère. Alors, à lire Yves Tréhard dans le Figaro, la surenchère ne viendrait pas des politiques qui cherchent à instrumentaliser l'islam, mais plutôt des prédicateurs en tout genre qui, depuis 30 ans, dit-il, cherchent à mettre à mal notre société et à la déstabiliser. De citer pêle-mêle le voile à l'école, les prières de rue, l'apartheid sexuel dans les piscines, les hôpitaux ou bien les auto-écoles, sans oublier le niqab ou la burqa. Sans compter que s'agissant cette fois-ci du burkini, cette scandaleuse tenue, écrit toujours l'éditorialiste, la laïcité et la religion sont ici hors sujet, car le burkini n'est pas une prescription coranique, mais la énième manifestation d'un islam politique, militant et destructeur qui cherche à remettre en question notre mode de vie, notre culture et notre civilisation. À présent, lucidité et fermeté doivent enfin triompher. Et Yves Tréhard de conclure son édito par ces mots: les semeurs de discorde et les prosélytes d'un ordre aussi archaïque doivent être verbalisés, condamnés et expulsés. Notre liberté est en jeu. Bref, vous l'aurez compris, ce matin encore, le débat autour de l'interdiction ou non du burkini enflamme les éditorialistes, sinon jusqu'à la nausée, au moins jusqu'au mal de mer. Mais faut-il seulement s'en étonner? Les arrêtés sans rime ni raison pris par des maires paniqués ne pouvaient déboucher sur autre chose, note Laurent Geoffrin ce matin dans Libération. Dès lors qu'on se mêle de réglementer la longueur des jupes ou le port d'un foulard dans l'espace public où chacun est habituellement libre de porter les tenues les plus diverses, on ridiculise la loi, dit-il, on humilie les citoyens et en l'occurrence les citoyennes. Les forces de l'ordre seront-elles désormais mobilisées pour interdire les plages à des mères de famille en tenue traditionnelle qui ne demandent rien et ne menacent personne? Devront-elles les expulser de force sous les yeux de leurs enfants dans une amère leçon de civisme à l'envers? N'y a-t-il pas des tâches plus urgentes pour les polices municipales? Et surtout, quel cadeau offert à la propagande islamiste qui veut présenter la France comme une terre par nature hostile à la religion musulmane?
Chômage, les raisons d'une décrue encore limitée, titre ce matin Les Échos au lendemain de la publication des derniers chiffres de Pôle emploi. Si le nombre de demandeurs d'emploi a baissé, ils sont 74 000 de moins qu'au début de l'année. C'est bien dû aux créations d'emplois, mais elles sont encore plutôt précaires, analyse Les Échos, qui rappelle au passage que 3,5 millions de chômeurs sont encore recensés dans notre pays. L'embellie profite à toutes les classes d'âge et aux chômeurs de longue durée. Voilà qui conforte les statistiques de l'INSEE sur le deuxième trimestre. Selon lesquels le taux de chômage est revenu à son niveau de 2012. Et difficile de ne voir là qu'un effet d'aubaine du plan de formation de 500 000 chômeurs annoncé en début d'année, puisque ce plan n'a fait l'objet des premières signatures qu'à compter du mois de mars. D'ailleurs, Éric Ayer, directeur du département Analyse et prévision de l'OFCE, cité par Les Échos ce matin, l'affirme: il y a bien une baisse du chômage tirée par la reprise de l'emploi et donc non artificielle, mais voilà, cette baisse reste limitée et plutôt au profit de l'économie précaire, poursuit Éric Ayer. Dommage, on aurait pu faire mieux, commente Gérard Collomb, lui aussi interrogé par Les Échos ce matin, le maire de Lyon, issu du pôle des réformateurs du PS, qui loue la politique de baisse des charges des entreprises menée par le gouvernement, mais si on l'avait mise en place dès le début début du quinquennat, explique Gérard Collomb. On ne serait pas dans cette situation. Si on s'y était mieux pris, ça accélérerait davantage, dit-il. L'opinion de son côté parle fiscalité ce matin, en revenant sur l'éternel débat à droite de la suppression de l'ISF. Pour la première fois depuis 86, écrit l'opinion, le candidat de la droite abordera cette mesure choc en étendard en 2017, puisqu'à l'exception de Nathalie Kosciusko-Morizet, les principaux participants à la primaire de droite l'ont inscrit noir sur blanc dans leur programme. Le problème, c'est que depuis Jacques Chirac en 88, rappelle l'opinion, la droite ne gagne jamais une élection quand elle veut supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune. Est-on sur le point d'en finir avec cette malédiction ? Réponse le dimanche 7 mai 2017 à 20h.
Elle, Benoît, affronte les putschistes en col blanc. Elle, c'est Dilma Rousseff. C'est aujourd'hui en effet que s'ouvre le procès pour destitution de la présidente brésilienne. Pour les forces démocratiques, la vacuité des accusations à l'origine de son éviction temporaire est la preuve d'un coup d'état institutionnel, d'où ce titre à la une de l'Humanité ce matin. Le procès en sorcellerie de Dilma Rousseff, le journal qui précise que ce sont des sénateurs corrompus eux-mêmes qui veulent écarter la présidente. Verdict le 31 août, enfin direction la Syrie, Benoît.
Oui, avec la Turquie qui passe la frontière syrienne, titre en une La Croix ce matin. L'opération bouclier de l'Euphrate vise à mettre fin au problème à la frontière entre Syrie et Turquie en ciblant, d'après le président turc Recep Tayyip Erdogan, les terroristes de Daesh et du YPD, le parti kurde syrien de l'Union démocratique. Car l'objectif d'Ankara au cours de cette opération militaire est bien double. Éradiquer la présence des djihadistes de Daesh dans la ville de Jarablus, dernier point de contact stratégique entre les territoires contrôlés par Daesh et la Turquie, mais aussi et surtout repousser les forces kurdes syriennes, d'où cette étrange ironie diplomatique, explique La Croix. L'opération turque visant Daesh se trouve appuyée par les alliés occidentaux de la Turquie et saluée le même jour par les États-Unis et l'Allemagne, alors que cette même opération cible aussi les forces kurdes entraînée et soutenue par Washington. Preuve que la question kurde va jusqu'à rapprocher sur un point au moins Ankara et Damas. Dans la presse également ce matin et toujours dans La Croix, cette tribune de Catherine Jousselme, professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Paris Sud. Comment organiser un exercice antiterroriste sans alarmer les élèves? Évidemment, c'est la perspective de la rentrée et cette conférence de presse hier de la ministre de l'Éducation nationale. Bonjour Marie-Rose Moreau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. On va parler éducation ce matin. Quand votre consoeur Catherine Jousselme m'explique que les scénarios qui vont être mis en place dans les écoles pour entraîner les enseignants et les élèves ne doivent pas être trop précis pour ne pas trop perturber les enfants, vous êtes d'accord avec ça ?
Ah oui, bien sûr, ils ne doivent pas être trop précis, puis ils doivent surtout être adaptés à l'âge. Et on va pas faire la même chose avec des adolescents pour lesquels effectivement des exercices vont les rendre actifs et vont diminuer leurs inquiétudes. Et des petits qui vont découvrir peut-être à l'occasion de ces exercices qu'il y a vraiment une menace. Donc il y a une nécessité d'adapter à l'âge, de bien s'occuper aussi et de bien former les enseignants parce que c'est quand même la clé. C'est eux qui portent aussi à la fois les manières de faire mais les inquiétudes de la société. Et puis l'importance d'associer les parents. Il faut que les parents puissent être associés pour que ce soit finalement la sécurité de tous et pas simplement des enfants à l'intérieur de l'école.
Philippe Mérieux est également avec nous depuis Lyon. Bonjour Philippe Mérieux.
Bonjour.
Professeur émérite de sciences de l'éducation à l'université Lyon 2. Vous publiez aujourd'hui « Éduquer après les attentats » aux éditions ESF. Rentrée difficile hein, cette année.
C'est difficile. Ce que vient de dire Marie-Rose Moreau me paraît très important. Adapter les exercices à l'âge des enfants, mais aussi accompagner les enfants. Il y a des enfants qui sont inquiets, il y a des enfants qui sont stressés, il y a des enfants qui rentrent à l'école à boule au ventre, pas seulement à cause de l'école, mais aussi parce que les événements de cet été les ont traumatisés. Et que tout cela reste dans leur esprit, je pense qu'il faudra que les enseignants prennent le temps pour que cela puisse être mis à distance, que cela puisse être fait. Peut-être faudra-t-il utiliser des médiations, la poésie, la littérature. En tout cas, il me semble que l'école et les éducateurs en général ont un rôle à jouer pour que dans cette période un petit peu compliquée que vit notre pays, les enfants soient à la fois informés, mais aussi protégés.
On va essayer d'améliorer la qualité de notre liaison, Philippe Mérieux. Vous restez avec nous à Lyon. On vous retrouve dans quelques minutes aux côtés de Marie-Rose Moreau pour parler de cette rentrée scolaire. Thomas Cluzel, rendez-vous à 8h15 pour la revue de presse internationale. Il est 7h30 sur France Culture.